Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Radio Foot International. Cessons la dame aujourd'hui. On se calme. Elle sera là demain, c'est promis. C'est lundi, comme d'habitude, une folie. Tant à dire et à commenter, peut-être même à critiquer. Oui, oui, on aime bien ça. Tiens, par exemple, revenons à vendredi. Oui, oui, fin de soirée, glacé à Monaco, côté PSG.
100% décision de l'entraîneur. Et comme entraîneur, mon objectif est ce que je considère meilleur pour l'équipe.
100% la décision de l'entraîneur, et l'entraîneur, il fait ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, vous l'aurez reconnu, il s'appelle Luis Enrique. On va en parler, querelle de coq et d'ego donc entre lui et Kylian Mbappé, ou cette éternelle façon qu'à Paris, avant un match capital, de se saborder. En même temps, quelque part, c'est réjouissant, non, cher Yves Guémour? Heureusement qu'on a Paris pour rire un peu.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Oui, 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 c'est passionnant, et la suite demain à 21h.
Huitième retour de la Ligue des Champions prévu demain mardi effectivement pour Paris à la Real Sociedad. Ligue 1 toujours après le PSG. L'OM, un mois après avoir été bon à jeter aux orties et dû quitter la Côte d'Ivoire apeuré, Jean-Louis Gasset ranime la cité phocéenne. Trois matchs, trois victoires, du jeu et des buts. L'Europe en vue en championnat, l'Europe au menu, jeudi en Ligue Europa. Le foot, c'est une dinguerie quand même, Salim Bongali.
Ça va vite le foot, hein.
Oh.
Extrêmement vite. Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à vous. Nous dirons également un mot de Brest, hein, équipe du tonnerre. Tonnerre de Brest, ouais, ça, il n'y a que ceux qui disaient Tintin qui peuvent comprendre. 13 matchs sans défaite, 13 succès en championnat et une deuxième place si solide que la C1 tend les bras au Brestois. Au Brestois, personne n'aurait misé sur ça, et c'est ça qui est bien aussi. La Ligue 1, c'est pas mal. La Liga, c'est bien également, surtout quand le Real s'agace. Les Madrilènes sont largement en tête, mais ils devraient l'être plus largement encore si l'arbitre de leur remontada face à Valence samedi ne les avait pas privés d'un but vainqueur pour avoir sifflé la fin du match en pleine passe décisive. Ancelotti et ses troupes, fous furieux, mais d'habitude les favorisés ne sont-ils pas eux, les Madrilènes? Leur chance dans cette histoire folle quand même, c'est que Gérone a fait match nul, a perdu même, et que le Barça a fait match nul, aucun des deux n'a pu profiter de ce relatif faux pas. Pour terminer, direction l'Algérie, où ce lundi, en début d'après-midi, le successeur de Djamel Groboulard Belmadi a été présenté. Vladimir Petkovic, croate, bosnien et suisse. Tout ça en même temps. Il parle même italien. Une certaine réussite à la tête de la Nati, un plantage à Bordeaux. Surprenante ou pas, c'est arrivé à la tête des Fennecs, Patrick Juillard?
On en parlera. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Mais un premier mot, ça va...
Non, moi, ça ne me surprend pas. Si on connaît les dessous, moi, je ne suis pas surpris.
Ah ben, on en parlera alors en fin d'émission. Voilà, décor planté, pas le temps de niaiser, Mathieu. Et puis Alice Ménard est là aussi, ben, on peut y aller.
Tôt ou tard, il faudra s'habituer à jouer sans Kylian.
Kylian Mbappé au téléphone, mais à la mi-temps face à Monaco, remplacé, vite rhabillé.
Ouvrons donc ce nouveau feuilleton, enfin cette nouvelle saison du feuilleton que l'on connaît depuis quelques saisons maintenant. Rions un peu avec le PSG. C'est le psychodrame du moment depuis que Kiki a fait part à ses dirigeants de sa décision de quitter le club à la fin de la saison. Décision annoncée par le club lui-même, hein, et pas tout à fait par lui, en
pas,
tout cas
pas de
à, la
manière
presse,
officielle,
à la presse,
voilà.
Pas de manière officielle. Voilà. Depuis, on a un peu l'impression que ses dirigeants lui font payer, que Luis Enrique obtempère, non titulaire une fois, sorti prématurément deux fois, mais vendredi, c'était dès la mi-temps, à Monaco, son club formateur, une forme d'humiliation pour certains qui expliquerait sa réaction au retour des vestiaires, tout sourire, selfie et compagnie, et une place en tribune aux côtés de Momo, son agent. Que vous inspire tout ceci, messieurs? On va faire un tour de table, parce que c'est vrai que vendredi, et alors que dire de samedi sur les réseaux sociaux? Et puis alors avec l'épisode Ligue des Champions qui réapparaît aujourd'hui, non, pas vous Patrick, vous êtes arrivé au dernier moment, vous êtes puni, vous parlerez en trois, cher Yves Guémour.
Bah, toujours la même histoire avec ce PSG, c'est-à-dire que l'institution ne se fait pas respecter, parce que bon, on va pas revenir sur l'épisode tragicomique ou pas comment on peut appeler ça, de Et Kylian Mbappé qui refuse de retrouver ses partenaires sur le banc, et qu'il est monté en tribune pour retrouver sa mère, c'est complètement surréaliste. On se souvient qu'au Real Madrid, avec le cas Bale, même si c'est Bale, avec tout son prestige, son salaire et surtout le transfert gigantesque que ça va coûter pour le Real, quand il ne respecte pas l'institution, même des joueurs comme ça, on les met de côté. Et là, on est dans un entre-deux qui est complètement surréaliste. Est-ce que c'est la volonté du coach de se faire respecter ? A-t-il reçu des consignes de la direction qui est vexée du départ ?
C'est tout ce qu'on soulève.
C'est en tout cas, on en est arrivé à cette situation que là, aujourd'hui, personne ne maîtrise. Et comme vous le dites, on est à la veille d'un match.
Comme d'hab. On a l'impression que c'est immuable avec ce PSG.
Dans le sommaire, vous avez utilisé le terme de s'aborder. Ça peut être pour Brest, pour le coup. Mais là, effectivement, c'est pour cette équipe du PSG. C'est vrai que chaque saison, ils arrivent à créer un petit truc autour de leur rencontre de Ligue des Champions. Soit c'est une blessure qui arrive au dernier moment. Rappelez-vous les épisodes Neymar, où Mbappé pas à 100%, il s'était blessé sur un match aller, il est de retour, on ne sait pas trop.
Aurier,
à l'époque,
Aurier avant Manchester City,
de Laurent Blanc, Périscope.
Périscope,
bien sûr.
C'était avant Manchester City, s'il
Exactement,
vous plaît.
Exactement, vous avez raison.
C'est remplacé par TikTok,
non ? C'est ça. Il y a eu tellement de séquences folles. Mais c'est vrai que celle-là, c'est en plus visuellement, encore plus, là, pour le coup, visuellement, ça marque parce que d'habitude, un joueur qui ne rejoint pas son banc, c'est soit parce qu'il est blessé, il doit être amené à l'hôpital. Perso, je pense ne pas me tromper en me disant que j'ai jamais vu ça. Pour le coup, un joueur qui est donc remplacé et qui va en tribune. Je
retrouver sa mère qui a un peu son
sourire. Il saute la barrière pour montrer que tout va bien. Il est pas blessé.
Il est blessé ou quoi ? Non, il est pas blessé. Il s'est changé. Il est au téléphone. En plus, cette image, elle est dingue. Il est au téléphone. On se demande même s'il est vraiment au téléphone, s'il a vraiment quelqu'un ou s'il a juste tenu son téléphone au niveau de son oreille. On peut lui trouver toutes les circonstances atténuantes que vous avez évoquées. L'attitude du PSG, on pourrait en parler lors du premier match, lors du deuxième, là, lors de ce troisième match. Mais il y a des choses, pardon, mais en termes d'institution, c'est le terme que vous avez étudié, on peut pas, si c'est une institution, on peut pas se comporter comme ça avec son club, son employeur.
Mais vous avez tout dit, si c'est une institution, on sait tous ici que le PSG se rêve en institution et n'en est absolument pas une. Une institution, c'est le Real Madrid, justement, c'est le Bayern Munich.
Oui, mais moi je pense que c'est pas l'institution le problème, c'est pas le PSG, c'est l'État. C'est un club État. Un club État d'un Émirat
du
Moyen-Orient. Non, c'est pas pareil parce que c'est pas un État comme un autre. C'est un Émirat où le protocole et le respect des usages sont l'alpha et l'oméga de la vie en société. Et Mbappé, en informant ses dirigeants dès le mois de février qu'il n'allait pas rester, il a totalement enfreint la règle. On sait très bien qu'il est en fin de contrat en juin. On sait très bien que s'il n'annonce pas qu'il souhaite prolonger, il partira. Pourquoi être allé le dire ?
Et pourquoi le PSG a-t-il communiqué là-dessus alors ?
Alors on ne sait
parce
pas qui a communiqué.
Le timing,
on ne sait pas qui a vraiment communiqué.
Moi, je ne sais pas. Voilà. J'ai rien qui me dit que la fuite ne vient pas de l'entourage du joueur lui-même. On dit que ça vient du PSG. Moi, j'en ai pas la preuve. Je n'ai pas eu j'ai pas eu, si vous voulez, la première main sur la fuite en question. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, le Qatar le sanctionne pour un crime de lèse protocole en quelque sorte. Et ensuite, ce qui n'est pas prévu, c'est la réaction du joueur. Parce que sortir à la mi-temps d'un match où on n'a pas été très bon, ça arrive.
C'est vrai, il n'est pas bon,
ça lui arrive pas.
Vous le sortez à la mi-temps, ce qui ne lui est jamais arrivé.
Mais c'est bien d'un match à Monaco,
il s'est révélé.
Qui commence à apprendre pour le futur séjour au Real Madrid, parce que là-bas, ça pourrait lui arriver. Ensuite, le fait qu'il soit capitaine, qu'il ait tout fait pour être capitaine et être la seule star de l'équipe, et qu'ensuite, malgré le brassard, il aille s'asseoir en tribune avec un désintérêt total. Oui, on l'a laissé faire, on n'allait pas le conduire de force sur le banc.
Il est devenu à lui seul plus important que le club.
Oui, mais ça, on le sait. En fait, le PSG a créé un monstre, mais ce monstre, maintenant, se retourne contre le club, et au final, tout le monde est perdant. Maintenant, la chance du PSG, elle est de taille, c'est que la Ligue des Champions, cette saison, et le niveau n'est pas fameux. Les huitièmes de finale, la Ligue Europa était de niveau supérieur. Et il tombe sur une équipe faible et qui est en perdition dans son championnat. Donc même si tout est possible avec le PSG, n'exclus rien.
On est en huitièmes de finale. Derrière, il y aura des quarts. Si ça rigole pour une fois,
les quarts, c'est plus tard. L'incendie sera peut-être éteint d'ici là.
Ce sera rigolo, Paris tombe sur le Real Madrid.
On évoquera le PSG Real Sociedad dans un instant, mais au point où on en est, vu tout ce qui se passe, vu le psychodrame, et encore une fois, c'est parce qu'on en a eu toutes les saisons précédentes, je me dis, mais rien n'est impossible. Ça ouais, se trouve même, Luis Enrique va se tirer une balle dans le pied en ne mettant pas Mbappé titulaire. Au point où on en est.
Pourquoi
en
fait. Pas Justement, je voudrais, le discours de Luis Enrique, qui me paraît aussi inaudible, c'est il faut préparer la saison prochaine, Paris doit apprendre à jouer sans lui. Dès le mois de février, alors qu'il y a un PSG qui est encore en lice sur tous les tableaux, Coupe de France, Ligue des Champions, Championnat, qu'est-ce qui se passe demain si le PSG est éliminé? Mbappé ne joue plus de la saison. Puisque en championnat, il semble un peu.
Et parce qu'il faut préparer la saison prochaine.
Et Luis Enrique, voilà. Qu'on annonce ce matin du côté de Barcelone, priorité pour succéder à Xavi. Il prépare plus la saison prochaine. C'est là où on n'y comprend plus
mais
rien dans ses discours.
C'est pas Luis Enrique qui parle, c'est le Qatar.
C'est
il parle pas tout seul. On lui a donné des éléments de langage.
Qui décidera l'avenir de
Luis Enrique. Il décide de tout, le Qatar.
La nature.
Il est en fin de contrat. Là. Ouais, ça a été signé par le Qatar.
C'est bien parce qu'ils ne peuvent plus décider qu'ils sont énervés.
La nature a horreur du vide. À partir du moment où le Qatar reste toujours en retrait, même si évidemment c'est eux qui tiennent les ficelles du club, Nasser El Khelaifi est plutôt resté dans l'ombre. Il n'y a pas de sanction, il ne s'est pas encore exprimé. Mbappé a fait du Mbappé, donc il est partant. Et Luis Enrique, mais ça, c'est là, on est vraiment dans les querelles d'ego. Si Luis Enrique peut se mettre en avant pour dire absolument tout ce qu'il veut, partir déjà au Barça, c'est pourquoi pas. Là, je prépare la saison prochaine. C'est simplement qu'il y a un espace médiatique qui s'est ouvert. Et comme on a affaire à des fauves, Nasser, Kylian et Luis, ils se projettent dans la lumière. Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit, comme vous dites, en se projetant la saison prochaine? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ça lui a permis de prendre la lumière ce week-end et ça, quelque part, ça lui suffit amplement. C'est aussi un jeu d'ego, le football, ne l'oubliez pas.
Juste, et encore plus peut-être au PSG. On a suffisamment critiqué les entraîneurs qui n'avaient pas de poigne, qui se laissaient faire par les joueurs qui décidaient, notamment la saison dernière, Christophe Galtier, à tort ou à raison, avait été critiqué avec ce trio offensif Neymar, Messi, Mbappé, qui le laissait faire, même tactiquement, etc. Et par le passé, ses prédécesseurs également. Là, pour une fois, on a un coach qui dit, toi là, tu ne joues pas, t'es mauvais, tu sors à la mi-temps. Alors après, ça tombe comme par hasard dans une période où on annonce son possible, probable départ. Donc voilà, le hasard fait que, ou peut-être pas que le hasard d'ailleurs. Mais au moins, il y a quelqu'un qui décide vraiment, qui dit, toi tu joues pas, toi tu joues. Donc au moins, on peut s'enorgueillir d'avoir un coach qui a les mains et les décisions dans ses mains. Quoi.
Quelque part, ouais. Je suis d'accord.
En fait, tout est biaisé dans l'analyse par les jeux de pouvoir. Ce qu'a dit Salim est rigoureusement exact. Et vu la prestation de Mbappé à Monaco, qui sort à la mi-temps, n'a rien de scandaleux sportivement.
Le problème,
on va toujours juger ça à l'aune de l'extra-sportif et des jeux de pouvoir dans le club.
Et les jeux d'ego.
Et les jeux de pouvoir, c'est un peu
les mêmes. Ces gens-là adorent les micros, ils adorent les projecteurs, ne l'oubliez pas.
Le PSG n'en sort jamais gagnant en tant que club. Et les supporters sont désespérés si vous leur parlez aujourd'hui.
Des huitièmes, alors vraisemblablement, on rappelle, victoire 2-0 à l'aller, but de Kylian Mbappé d'ailleurs.
Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur.
C'est vrai que depuis la Real Sociedad, c'est 4 défaites d'affilée,
Mais ce week-end, ils ont encore perdu.
Imaginons que ça passe demain et tout ça, mais on sera tous à l'affût pour voir qui le PSG pourrait tirer en quart de finale ensuite.
Real Madrid.
Ce serait tellement drôle.
L'Inter, on va rigoler.
Et de voir surtout si Mbappé, dont on a compris d'après l'entretien de samedi matin ou d'après les échos du week-end, il est là pour jouer les matchs importants, c'est ça. Donc en gros, il joue la Ligue des Champions et il jouera moins en championnat. C'est à peu près ça ce que vous avez entendu
aussi. Non, c'est pire que ça, parce qu'on pourrait croire qu'il a été préservé. C'est la dernière hypothèse sportive.
Moi, c'est même pas ça. Naïve, je me suis dit, ah, ça, c'est bien.
Et c'est
sur
même
le coup,
pas mais ça. Là, en fait, c'est même pas ça. Donc non, mais ouais, là, n'oubliez pas, ces gens-là, ils aiment les micros. N'oubliez pas que Luis Enrique, quand il est face aux médias français, qu'il méprise. Oui, voilà, il les porte pas dans son
cœur. Il garde à distance.
La suffisance est totale.
Voilà, à chaque fois qu'il se présente devant les médias, n'oubliez pas qu'il est sur la sellette, donc il est sur la défensive. Là, ce week-end, c'est lui
qui est à l'offensive.
Ah oui, il était très bien ce week-end, oui. Et très à l'aise.
Il adore ça.
Oui. Ben on l'a entendu. Hein. N'oubliez jamais. Je suis celui qui décide, je suis le seul responsable. Voilà, c'est moi le patron.
N'oubliez jamais qu'il y a des questions d'ego. Et évidemment, les meilleurs entraîneurs, c'est ceux qui ne se mettent pas en avant, qui laissent faire les choses, qui attendent que le rapport de force tourne en leur faveur. Regardez Ancelotti, on ne l'a pas entendu. Il était partant, ouais, c'était sûr. Il va au, toute façon, Brésil. Il quitte le Real. Ouais.
Absolument.
Brésil, ça c'est sûr. Il dit rien, il taffe. Et finalement, le Real réfléchit deux secondes. Puis il se dit, mais en fait...
On n'a pas l'un des meilleurs entraîneurs du monde, en fait.
Bah, évidemment, Ancelotti. Tiens, on en parlera.
Et Ancelotti est reconduit. Et on parle du Real Madrid. Ouais. Donc voilà, c'est aussi ça.
Ça s'appelle une institution.
Ça s'appelle une institution. Et puis, il y a l'ego bien placé et les égos mal placés. Moi, ce que je vois à Paris, c'est que des égos mal placés. Parce que ça ne va pas en rester là. Mais c'est...
Ah ben
faut, oui, faut être naïf pour croire que ça va pas rebondir.
Jusqu'à cet été.
Oui, absolument.
Une fois,
absolument.
Demain, il y a qualification face à la Sociedad. Très bien. Mais à chaque match, à chaque rencontre, on va guetter le moindre geste de Luis Enrique, le moindre pas, la moindre passe loupée de Kylian Mbappé. Il a loupé. Regardez le regard de Luis Enrique. Ça va être ça.
Mbappé aussi. Maman Mbappé. Vous avez raison. Observez aussi parce qu'elle est maintenant en tribune à tous les matchs.
Vous imaginez à chaque match, ça va être ça.
En fait, c'est ce que voulait Mbappé, mais dans le sens inverse. Lui, il voulait qu'on gâte tout en positif. Et là, on va guetter tout en négatif. Donc, c'est raté sur toute la ligne. Et pour le PSG, c'est mauvais pour le PSG parce qu'aux yeux des autres grands clubs, c'est un club qui ne bonifie pas les joueurs. Et pour Mbappé lui-même, l'image de son sourire en tribune pendant que ses coéquipiers jouent contre le deuxième du championnat, elle est
c'est pas un très bon acteur,
poursuivant
hein.
Direct. Bon,
en même temps,
on va
demande qu'il soit un bon joueur.
C'est pas bon non plus. Ça donne l'image d'un joueur qui pense qu'à lui. Et tout ça, pour, c'est bon pour surtout personne, en fait, et pas pour la Ligue 1 encore moins. En fait.
Surtout qu'il rejoint sa mère, qui a plus ou moins son agent.
Donc ouais,
qui est son agent. On va en rester là parce que mettre idée que la
ça
dame en
revenir.
Reparle demain, ouais. Mettre idée que la dame en reparle mercredi,
demain,
mettre
jeudi.
Idée que la dame en parlera vendredi voilà. Et de nouveau lundi prochain. Voilà, voilà. Amis auditeurs, si vous en avez marre de Mbappé, il va falloir songer peut-être à changer de programme momentanément de temps en temps parce qu'on est parti pour quelques
mais
mois.
Mais ils
n'en
ont pas marre, ils aiment bien le palabre, n'est-ce pas?
Ouais.
Eh oui.
Rendez-vous demain mardi, donc 20h, TU à Saint-Sébastien pour un retour de huitième de finale, a priori, bien embarqué, hein, on le rappelle, 2-0 ouais. À l'aller. J'ai dit a priori.
Ouais. Vous savez quoi, Olivier, j'y crois pas un instant, le Real Sociedad va passer.
Ah bon?
Allez,
c'est
la Real. Ce serait aussi drôle.
J'ai dit la Real.
Ce serait très très drôle. Bon, on va arrêter de rire. Si, on va parler de l'OM. Mais là, pour le coup, on va pas en rire. L'OM jouera jeudi, pour sa part, sur la scène européenne, en huitième aller, cette fois, de Ligue Europa. Et en direct sur RFI, il n'y a pas de mal à se faire du bien, ce sera contre Villarreal, soirée. Donc en direct et en intégralité, je précise pour tous nos auditeurs qui sont en manque de foot, c'est sûr, après la CAN. Un OM revigoré, presque transfiguré depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Qui l'eût cru? 3 matchs, 3 victoires. Samedi, 5-1 à Clermont, avec 5 buteurs différents. Avant, il y avait eu 4-1 contre Montpellier, 3-1 face au Shakhtar Donetsk. Avant, il n'y avait pas une victoire. Oui. Il n'y avait pas une victoire depuis la Coupe de France contre Thionville, le 7 janvier. Et en championnat, d'après les informations de Mi2, Alice Ménard, Mathieu, c'est des petits pro-OM, ceux-là. Ils savent, ils ont dit, oui, 17 décembre, je crois, elle m'a dit Alice Ménard, en championnat. Je crois que c'est
une éternité.
Voilà, une éternité. Jean-Louis Gasset, rappelons-nous, les amis, je suis désolé pour les Ivoiriens, on va simplement juste vous dire que vous êtes peut-être allé un peu vite en besogne, mais vous en moquez, vous êtes champion d'Afrique depuis.
On ne peut pas dire ça, la suite
absolument.
Leur a donné raison.
Ah, évidemment.
C'était peut-être un concours de circonstances, ça n'aurait pas pu être la même. Il est parti en tout cas parce qu'il avait peur.
Je peux vous dire que ça n'aurait pas pu être la même.
Il est parti parce qu'il avait peur et parce qu'il a jugé que c'était bien. Il a été pas mal tensé pour ça, il revient. C'est vrai, il a 70 ans, mais n'empêche qu'il a redynamisé un groupe.
Il a été pas mal tensé aussi sur son arrivée au final, en disant « Mais c'est qui ce vieillard ?» Et je reconnais, je vais pas mentir, je me suis dit « Mais attends, à 70 ans, il n'a pas autre chose à faire là, après cet échec en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'a pas envie de souffler, de se reposer ?» Après, il a bien expliqué aussi que c'est un intérim pour le coup simplement. Mais c'est vrai qu'il ce qu'il réussit à mettre en place. Alors, on va pas faire croire que techniquement ou tactiquement, il y a une révolution. Ouais. C'est juste, et lui-même l'a dit, il y a certains mots qu'il a pu utiliser. Il est dans cet exercice de calinothérapie Et ça semble fonctionner. Alors, je dis pas que c'est le seul truc, parce qu'à un moment donné, si c'était juste parler, ben, ce serait simple, tout le monde pourrait parler, tout le monde pourrait être entraîneur.
Il y a un moment, mais ça marche plus avec les Ivoiriens. C'est un groupe qu'il a façonné.
Bien sûr,
mais c'est ça, Marseille, en 8 jours, ça fonctionne.
Il y a encore une fois une notion de confiance à mettre en place, et puis des bases, surtout. En fait, il y a des moments, faut pas aller dans des systèmes de jeu extrêmement complexes. Parfois, vous repartez sur des bases simples, et ça peut fonctionner aussi.
Tout ça, c'est des fausses histoires. Rappelez-vous le fameux 4-3-3 de Gattuso, dont les joueurs ne voulaient pas, ils voulaient repasser à 3. Ce week-end, contre Clermont, ils ont eu une défense à 4. Donc, tout ce qui touche autour de l'approche de la tactique, les joueurs sont rétifs et tout. Il y a pas mal des choses qui se passent sur un terrain, c'est les joueurs et c'est pas l'entraîneur. Après, bon, s'il y a, comment dire, des tensions entre Gattuso et son groupe. Non, moi, je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a quelques semaines, bon, bah, c'était clair, c'était la fin de Gasset comme technicien, comme entraîneur. J'ai eu beaucoup de peine pour lui. Je me suis dit, oui, mais c'est absolument terrible ce qui lui arrive.
Ce qui lui est arrivé à la CAN est injuste.
En plus de ses drames familiaux, puis finir comme ça, c'est absolument... Et rebondi à Marseille, et surtout, c'est cette victoire contre le Shakhtar. On n'a pas assez insisté, à mon sens, dessus. Le Shakhtar est une bonne équipe qui joue régulièrement les Coupes d'Europe. Et là, il y a eu un vrai déclic. Et du coup, je ne sais pas ce que ça va donner en championnat. Je me dis, est-ce que la magie, entre guillemets, de l'Europe ne va pas catalyser tout ça entre Gasset et un groupe? Et comme vous l'avez rappelé, 5 buts, 5 buteurs différents. On a l'impression qu'il se passe quelque chose. Après, c'est Marseille. C'est un coup de fou.
Et après, c'est Clermont et Montpellier. Surtout Clermont.
Et Montpellier. Oui, attendez, je rappelle juste... Marseille, du coup, septième, au moment où on se parle, à 4 longueurs de la 4e place.
Après, c'est notre championnat.
On le rappelle,
c'est pour la faiblesse du championnat.
Le championnat est très faible.
Le championnat est faible.
Oui, ça, on le sait depuis longtemps. Mais voilà, Lyon était perdu, l'OM prenait le même chemin.
Et
finalement,
Nice,
ces deux équipes-là
voilà, être irrésistibles. Ça va très vite. Non, l'OM, là, c'est le bon moment pour prendre des points. Ils ont joué Montpellier, équipe en perdition. Clermont à Clermont sur une sorte de chantier
rouge,
à ciel ouvert, un stade à moitié coupé en deux, Lanterne Rouge. Et ils vont jouer Nantes, qui a subi une défaite terrible contre Metz à domicile ce week-end, donc qui est au plus mal. Donc prendre les points à ce moment de la saison, c'est vital pour eux, parce que si l'OM ne prend pas les points maintenant, tout rêve d'accrocher l'Europe s'envole. Donc ça, c'est bien. Le match significatif, je suis d'accord avec Chérif, c'est celui du Shakhtar, parce que là... C'est une vraie bonne équipe, même si elle est diminuée par le fait cette expatriation forcée, de la perte de ses meilleurs joueurs. Mais c'est une vraie bonne équipe avec une âme.
Un vrai match.
Ça, c'est significatif. Victoire. Après, Gasset, pour moi, au-delà du le discours, le côté papy empathique, tout ça, sans doute. Mais là où il fait quelque chose de simple et efficace, c'est qu'il utilise ses joueurs en fonction de leurs caractéristiques. Il les met dans leur zone de confort tactique.
Notamment au milieu de terrain.
Ça a l'air tout simple, mais certains coachs jouent plutôt aux apprentis sorciers.
Absolument.
Et veulent plier un joueur à leur imagination et à leurs idées qui ne sont souvent pas en adéquation avec la réalité.
Surtout,
au moins, Gasset est pragmatique. Ouais. Il a utilisé son effectif au mieux qu'il puisse l'utiliser. Je ne pense pas que ça ira plus haut que la 5e place, mais au moins, il essaye d'en tirer le maximum.
D'où ils viennent. Je vous propose, avant de vous réécouter, bien sûr, Chérif, d'écouter Pierre Emerick Aubameyang, le Gabonais. 9 buts finalement cette saison, ça partait mal. Il était plus prolifique en Ligue Europa, dont il est le meilleur buteur. Et le voilà qui a encore planté samedi et qui s'en satisfait évidemment. On écoute.
Tout n'est pas parfait parce que je pense qu'on a manqué un petit peu de justesse technique en première mi-temps. Mais voilà, après on a retrouvé le rythme qu'il fallait mettre dans le match et ça fait du bien de retrouver Marseille qui gagne, Marseille qui fait la différence, qui marque des buts. Voilà, c'est ce qu'on attend de l'équipe. Même les rentrants ont été sérieux, ils sont rentrés, ils ont fait la différence, ils ont marqué, tous les attaquants ont marqué, donc c'est top.
C'est dingue en 15 jours, c'est quand même incroyable. Gattuso, Gasset, on passe d'un extrême à l'autre.
Marcelino avant quand même.
Oui.
Une saison
Marcelino qui revient en deuxième semaine, jeudi.
Il paraît, Mais c'est qui Marcelino? Ah, je le reconnais lui. Non, mais je suis d'accord avec Patrick, une des qualités de Gasset quand même, on ne va pas lui enlever ça, dans toutes les équipes qu'il a fait, c'est un entraîneur qui sait faire des équipes. Alors évidemment, il y a l'aspect tactique, il y a la kinésithérapie, la psychologie, mais je suis d'accord avec toi, notamment au milieu de terrain, pourquoi on n'a pas plus essayé? Alors déjà, les Marseillais voulaient jouer à deux attaquants. Bon, Aubameyang n'a pas arrêté de le réclamer depuis le début de la saison. Voilà, on joue avec deux attaquants, ça devient plus clair. Puis au milieu de terrain, oui, Veretout, et puis en relayeur, évidemment, Unai et Harit. Ça fonctionne.
Il y a eu une baisse de régime qu'il a reconnu avant le match. Ah, oui, contre Clermont, oui, qui revient,
oui,
là.
Mais chacun,
le Marocain,
est à, chacun Chancel est à
Bemba,
sa place.
Oui, est en défense, fidèle à lui-même. Illiman Diaye, le Sénégalais, voilà, est en train de prendre
chacun
confiance.
Est à sa place.
Juste utiliser
cette phrase, encore une fois, chacun est à sa place. C'est pragmatique, voilà, ce que fait Gasset. Je parlais des bases tout à l'heure. Ben, parmi ces bases-là, on met les joueurs à leur poste, tout simplement. Alors, encore une fois, ça paraît facile de dire cela. Et Patrick a très bien dit, Gattuso attendait des choses, on n'a pas tout compris. Marcelino, même avant lui, avait tenté des choses cette saison, on ne comprenait pas. Ben là, au moins, ça allait...
Avec un Unai sur le côté gauche, Aubameyang tout seul en pointe, ça ne fonctionne pas.
Ça mérite d'être clair et simple aujourd'hui. Alors, ça fonctionne face à Montpellier, face à Clermont.
On le rappelle, c'est que pour 3 mois.
Ça fonctionnera. Ça fonctionnera peut-être.
C'est affinité.
Ouais, on l'espère pour lui.
Oui, pourquoi pas.
Attention à l'aventure européenne. C'est
Villarreal,
c'est très marseillais.
Mais c'est vrai que ça peut être un cercle vertueux pour le coup. Ouais. Effectivement. Après, ça compte malgré tout pour ce Marseille-Villarreal. Vous aurez l'occasion d'en reparler.
Il va falloir passer quand même parce qu'ils sont en forme.
D'une part.
Ils ont gagné 5-1 aussi.
Et il y a aussi le virage nord qui est fermé. Et ça, une partie du stade fermé, ce vélodrome qui n'est pas en fusion totale, ça comptera aussi pour ce match aller.
Rendez-vous jeudi donc pour l'OM sur RFI et au Stade Vélodrome face à Villarreal. On a parlé du PSG, on a parlé de Marseille, c'est assez logique quand on parle de Ligue 1. Parlons de quelqu'un qu'on a un peu moins l'habitude d'évoquer. Moi, j'adore cette chanson de supporters. Les Brestois, fiers de nos couleurs, les rouges et blancs. Bah, mes rouges et blancs, à moi, c'est le stade de Reims, mais je veux bien qu'on parle quand même du stade Brestois, pourquoi pas. Non, mais bien sûr, le tube de la saison qui s'installe et qui dure, hein, c'est Brest, les amis, à n'en pas douter. Dauphin du PSG, les hommes d'Éric Roy, 6 points d'avance sur le 5e, Lens, à 10 journées de la fin. Et du coup, ça en fait un sacré client pour la C1, la Ligue des Champions, c'est dingue. On y pense, mais on ne s'enflamme pas, nous dit le milieu de terrain Hugo Magnetti.
Franchement, je vous dis la vérité, il reste 10 matchs, c'est très long, il peut tout se passer. On voit des équipes revenir comme Marseille, qu'on pensait plus dans la course, qui reviennent. Non, franchement, on sait qu'on est en bonne position pour une éventuelle Coupe d'Europe, mais on ne s'en cache pas, on veut écrire l'histoire. Si ça doit être l'Europe, on la fera. Si ça doit être la Ligue des Champions, on ira jusqu'au bout. Si ça doit être la Ligue Europa, on ira jusqu'au bout. Mais nous, on est bien dans nos baskets, c'est ça qui fait notre force. On ne se prend pas la tête et on prend match après match et ça nous réussit, donc on ne va pas s'enflammer encore.
Et c'est pour ça qu'on aime bien Brest, Hugo Magnetti, dont vous me disiez, Patrick Juillard, qu'il avait prolongé aujourd'hui. Bah alors, donc on comprend qu'il soit intéressé par une perspective européenne la saison prochaine. C'est une bonne surprise, c'est réjouissant, on a dit. La Ligue 1, oui, c'est faible. Et on ne va pas changer d'avis, mais au moins, ça nous réserve ce genre de surprise, et c'est moins le cas ailleurs.
Non, mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette équipe de Brest, c'est qu'il y a une mystique cette année, il y a quelque chose qui dépasse, qui transcende. Ça me rappelle le Lens de l'année dernière, où rappelez-vous la dalle angevine, il y a quelque chose qui électrise un entraîneur, son groupe, le public, son stade, la ville. Il y a un cercle vertueux, les bons résultats. Moi j'ai regardé, c'est quand même une équipe, c'est pas toujours très beau à avoir joué, mais c'est une équipe qui vous lamine, ils sont toujours en mouvement, ils pressent haut, ils attaquent, donc c'est pas une surprise. Et ils sont portés par quelque chose, et on a parlé de Gasset, le miraculé, que dire d'Éric Roy, qui lui a été un trou de presque 10 ans sans entraîner. C'est il y a une communion,
il travaillait en coulisses, mais il est
directeur sportif à Watford,
mais en tant qu'entraîneur.
Voilà, oui, je parlais du banc. Et moi, je pense que ça peut aller au bout, pour la Ligue des Champions.
C'est quand même très bien parti. On rappelle, 4 qualifiés. On risque de les voir.
Ils ne perdent pas.
Mais pas chez eux. On rappelle que leur stade n'est pas homologué. Donc
je finis. Il y avait un test contre le PSG. Ils l'ont passé brillamment.
2-2 au parc.
Voilà, ils ont surpris tout le monde.
Donc, avec Lesmé Lou, Kamori Doumbia, le Malien, qui nous a régalé à la CAN. Steve Mounier, le Béninois, qui joue 22 matchs cette saison, 3 buts seulement. Mais bon, voilà, il y a une vraie équipe. Monaco, Lille, Lens et Marseille sont en chasse.
En fait, les grosses cylindrées sont toutes déficientes cette saison, pour des raisons diverses.
Elles perdent alors que Brest ne perd pas.
Manque de régularité, des recrutements parfois dispendieux et ratés, des joueurs clés qui ont été imparfaitement remplacés, et Brest qui est resté très stable et qui au contraire surperforme parce que cette équipe
surchauffe.
Joue au-dessus de ses moyens
globalement.
Donc Brest optimise tout ça et fait des vraies différences parce que c'est une équipe régulière.
Qui ne perd pas.
Il y a encore 3-4 semaines, je vous aurais dit, il y a également Nice, il n'y a plus maintenant.
Parce que Nice perd.
Et je ne vous parle même pas du stade de Reims, cher à votre cœur.
C'est ce que j'allais dire, on aurait pu y penser.
Non, mais c'est fini.
Insistons vraiment sur Brest, parce qu'à la base, c'était une équipe dont l'objectif, c'était la 15e place. Être le premier non relégable, eux, ils étaient super contents s'ils avaient fait ça. Là, ce qu'ils ont fait en début de saison, en ne prenant que des joueurs en prêt, on le rappelle, ils n'ont pas pu vraiment acheter soit des joueurs libres, soit des joueurs en prêt. Ils ont dû vendre Honora 8 millions d'euros parce qu'ils avaient besoin de récupérer l'argent. La direction a été très claire avec tout le board autour d'Eric Roy, on n'a pas d'argent pour acheter.
J'étais inquiet après le départ de Honora.
Non, mais franchement, pour moi, Brest était relégué. Enfin, je ne les voyais pas se maintenir, perso. Je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est l'un des plus grands exploits du foot français, ce qu'on est en train d'assister.
On va attendre la fin.
Mais au moment où on parle, en tout cas.
Il y a quand même, encore une fois, un petit matelas, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler
aujourd'hui.
C'est une deuxième place très solide.
Après, effectivement, peut-être que Brest s'écoulera. Ouais. C'est quand même la deuxième meilleure défense du championnat, derrière Nice, justement. Donc ça, c'est quand même assez fort. Meilleure défense que celle du PSG, que Marseille, Monaco, que sais-je. Ce que Brest est en train de faire, alors qu'ils doivent être presque en Ligue 2. Enfin, dans l'esprit, il devait être 17 ou 18e. Ouais. Être deuxième, c'est l'un des plus grands exploits du foot français.
Ouais.
Et donc, ça peut tenir.
Oui, oui. Un petit indice. On annonçait Brassier, le défenseur, forcément partant au mercato d'hiver.
Ils l'ont gardé.
Comme Lesmelouk, qui était convoité par Rennes.
Ils ont réussi à le garder.
Et parce que les joueurs sentent que quelque chose de grand est possible.
C'est pour ça que je parle de Lens.
Le titre, je pense que... On est tous d'accord pour dire que c'est trop loin et trop dur. Mais effectivement, le top 3, moi, j'y crois. Hein. Je pense que j'aurais peut-être pas dit ça il y a 4 ou 5 semaines. Mais là, parce que Nice perd, le rêve se dessine. Ouais.
Monaco perd pas vraiment, mais ils perdent de temps en temps.
Ils ont su passer la période Cannes où ils n'avaient plus qu'à Amaury Doumbia, ça revient fort là aussi.
Période Cannes plus des rencontres clés, quand ils vont gagner contre Marseille à 10-11, ils prennent pas de but et en infériorité numérique.
Ça, c'est la mystique.
Pierre Lesmelou qui réussit à te marquer un but magnifique.
C'est la mystique,
c'est le truc intangible, je vais parler des signes, mais il y a des signes qui ne trompent pas.
Madi Camara, un triplé.
Contre Strasbourg. Enfin, on se dit à un moment donné.
Ça sort d'où ?
Là, il y a des trucs qui sont anormales, des choses anormales, pardon.
Irrationnel.
On se dit, oui, ils peuvent le faire et ils peuvent être vraiment sur le podium.
Eh ben voilà, on en a parlé, on en reparlera.
Comme Lens s'est qualifié pour la Ligue des Champions, on les a pas vus arriver. Puis voilà.
Mais Lens, c'est un plus gros budget que Brest.
Lens, c'est quand même un plus gros public, plus attendu que Brest, mais on est ravis de voir la Bretagne en fête. Et on espère pour
parce qu'il fallait pas compter sur Rennes et Nantes ce week-end pour la voir.
Lorient a gagné.
On espère que les Bretons de cette partie-là de la Bretagne auront droit à une Coupe d'Europe. Je ne sais pas depuis quand ils en ont été privés, mais c'est sûr que Brest, c'était inattendu. On va surveiller ça de très près d'ici la fin de ce championnat de Ligue 1. Du coup, on arrête avec la Ligue 1. Ça va comme ça, ça fait plus de 30 minutes qu'on y est.
Ovviamente era un po' di frustrazione, l'ha detto in inglese, it's a fucking goal.
Et l'arbitrage qui va me rendre malpoli, mon Carlo Ancelotti, it's a fucking goal. C'est un but, bon, on va pas traduire. c'est mieux, vous l'avez compris. Vous avez forcément, amis auditeurs, entendu parler de ce but-là, de ce non-but finalement, samedi soir. Aïe, 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 que s'est-il passé à Valence, le Real Madrid en pleine remontada, mené 2-0, revenu à 2-2, et puis patatras. Voilà que pour une fois, l'arbitre ne l'avantage pas. Ça aussi, ça fait partie du débat. Ultime centre de la droite, tête de Bellingham, but. Eh bien non, sur le centre, l'arbitre a sifflé la fin de la partie. On en reste à 2-2. J'arrive tout de suite, Patrick. Grosse colère du coup. Des joueurs, puis d'Ancelotti qui dit n'avoir jamais vu ça. It's a fucking goal. Ça veut dire, il y a but, en gros. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça scandaleux, Allez, Patrick. Je
vous sens... moi, en fait, c'est pas une question de scandale. Je place pas ça sur un plan moral. Pour moi, en fait, c'est un arbitrage qui n'est pas un arbitrage de football. C'est un arbitrage de sport à chronomètre. C'est-à-dire l'arbitre a regardé son chrono, a vu que c'était fini, il a
c'était
sifflé.
Même dépassé, hein, le temps était
oui,
dépassé.
Oui, c'était dépassé, clair. Mais en football, on n'est pas au basket. Là. Oui,
on attend en général que le ballon absolument. Sorte.
Dans l'esprit, on attend la prochaine oui, fin d'action,
prochain dégagement,
sortie ouais. de balle ou fin d'action, faute ou autre, hors-jeu, n'importe quoi, et on siffle. Là, cet arbitre a appliqué au pied de la lettre le règlement qui dit « le temps est écoulé, donc on peut siffler ». Dans l'absolu, c'est pas, j'allais dire que c'est pas illicite.
C'est
mais
légal.
C'est pas mais c'est totalement contraire à l'esprit du foot. Si on transforme le foot en sport américain, moi je vais regarder du cyclisme ou de la Formule 1. J'arrête de regarder le foot.
Fucking voilà. Shocking alors.
Non, parce que comment dire, moi je vois clairement sur l'action. Alors, je suis petit idiot. Au lieu de suivre l'action, j'avais le regard sur l'arbitre. Non, c'est clair, l'arbitre a le sifflet à la bouche, et il se retourne, il ne regarde même pas le but, hein, c'est dans son match, c'est fini. Et évidemment, c'est pas le football, c'est pas l'esprit du football. Sinon, je vais revenir juste quand même sur les circonstances qui font que ça s'est vraiment frité, pardon de l'expression, non, à la fin du match. Il y a un contexte particulier, c'est Valence, entre le Real
Vinicius.
Et Valence, c'est la guerre. C'est, rappelez-vous, c'est l'année dernière, c'est les Vinicius, sifflets ouais. racistes ouais. contre Vinicius. Rappelez-vous que quand il marque les deux buts, provoque un peu le public. Je comprends, mais voilà, c'est pas ouais, peut-être le comportement le foot, à avoir. Mais c'est ça qui fait que ensuite, après, avec, j'allais dire erreur d'arbitrage, non, c'est mauvaise appréciation. Voilà, on va dire comme
voilà.
ça.
En
langage de droit, il y a une mauvaise appréciation de la situation. Évidemment qu'on doit laisser l'action se poursuivre jusqu'à la fin. Il coupe un truc, mais je pense qu'il va y avoir des suites. Je pense qu'à la fédération, enfin dans la commission des arbitres espagnole, je pense qu'il va se faire taper sur les doigts. Je dis pas qu'il va se faire suspendre, mais à mon sens, ça va pas en rester là.
On n'avait jamais vu ça, dit Ancelotti.
C'est faux.
On a un stagiaire qui est arrivé aujourd'hui, Alexis, je crois. Il est là pour quelques semaines, vous entendrez parler de lui. Il nous rappelait ce matin en conférence de rédaction, France-Suisse, Coupe du Monde 2014. La France mène 5-2, il y a un sixième but de Benzema. Et
oui,
l'arbitre ne le valide pas parce qu'il a sifflé à la fin du match.
Et même, et beaucoup plus récent, dans le championnat d'Espagne, en mai dernier, le match Valladolid-Séville. Match très important pour le maintien pour Valladolid, qui au final sera relégué pour un point. 0-0 à la mi-temps, la corner, la balle qui est dégagée, l'arbitre qui siffle et une seconde après, mais je vous jure, c'est vraiment une seconde, on l'a diffusé hier à cette image, une seconde après, il y a une frappe d'un joueur de Valladolid qui va dans le but, eux ils sont super contents, l'arbitre dit non, j'ai sifflé, arrêtez. Et il y avait 0-0 à ce moment-là, il aurait pu avoir 1-0, finalement c'est Séville qui s'impose 3-0, qui baffe Valladolid, et Valladolid est relégué pour un point. Donc ça arrive, je dis pas que c'est une bonne décision, encore une fois, hein, mais et vous l'avez très bien dit, messieurs, c'est légal ce qui s'est passé.
Ouais. Rien ne l'empêche dans les lois du jeu et de l'arbitrage.
Mais c'est une appréciation quelconque, pour ne pas dire mauvaise, de la part de l'arbitre, effectivement.
Contraire à l'esprit, en
voilà,
fait.
Voilà, ouais. Quand cette balle est dégagée ce samedi, il y a un joueur de Valence qui le récupère d'abord, qui le contre en quelque sorte. Donc on se dit, c'est là presque que l'arbitre aurait dû le siffler. Mais non, il attend que la balle arrive de l'autre côté, arrive dans les pieds d'un Madrilène pour siffler. Donc là, c'est vrai que dans l'esprit du jeu, non, c'est une erreur, c'est certain.
Il va se faire sanctionner, c'est une évidence,
oui,
parce que n'oubliez pas,
Real,
c'est
voilà.
le Real, ouais, oui. c'est, on vend la Liga à l'international, on ne veut pas d'une fin comme ça,
absolument.
L'arbitre
oui.
va se taper sur les doigts.
Mais que dire donc de ceux qui, depuis samedi, disent oui, après tout, pour une fois que c'est contre le Real,
oui, ça, c'est vrai, c'est parfaitement vrai, parce qu'en général, on était habitué, surtout à la grande période de Ramos qui marque un but de la tête dans les arrêts de jeu.
Pardonnez-moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas une erreur ou une mauvaise appréciation qui doit venger les mauvaises appréciations.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est l'ironie. C'est l'ironie du sort. C'est l'ironie du
voilà,
sort.
C'est un peu ironique. C'est voilà. Leipzig, Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions
c'est
pas plus tard que le mois dernier. Bon, on voit que le Real est bien arbitré, bien souvent.
Comme
c'est
les gros.
C'est une réalité.
C'est la réalité des gros.
C'est pas du complotisme qui tombe du ciel pendant les arrêts de jeu qui sont transformés par Ramos. On a l'habitude. On a adore ça. On va être franc, on adore ça.
On peut dire pareil
là,
pour la Juve ou
40
pour d'autres équipes.
Bon, le Real, toujours en tête, hein, malgré tout. 7 points devant Gérone, battu hier à Majorque. Ouais. 8 de plus que Barcelone, tenu en échec hier aussi 0-0 à Bilbao.
Deux blessés.
Madrid est sur la voie royale. le Barça n'enchaîne pas hein, depuis sa dernière défaite le 27 janvier. C'est nul, victoire, nul, victoire.
Et surtout la manière, encore une fois, dans le jeu. Alors, vous l'avez dit, chef, les blessés. De Jong, Pedri, c'est entre 5 et 6 semaines. De Jong, ça peut être plus sérieux. C'est la cheville qui a totalement tourné.
Hein,
le coup. Quand on voit l'image, quand on voit d'ailleurs le nombre de blessés à Barcelone, c'est quand même assez impressionnant. Depuis le début de la saison, 22 blessures au Barça, tout poste confondu. Mais pardon, le jeu hier, alors c'est les deux, hein, Bilbao qui pourtant nous transcende bien depuis le début de la saison, surtout à domicile.
C'était pas top.
Barcelone, c'était pas bon hier non plus. Ouais. Mais pardon, même les victoires que vous évoquiez, le Barça n'est pas transcendant. Hein.
On va donner un indice, Lewandowski est en grande difficulté.
Ouais.
Et à partir du moment où Lewandowski est en difficulté, que le Barça ne met pas le premier but... Ça patine, entre autres.
Sincèrement, autant il y a quelques semaines, j'aurais pu ne pas dire ce que je vais dire maintenant, mais quand la semaine prochaine, il y a Barcelone-Naples en Ligue des Champions, quand je vois ce Barça, quand je vois le Napoli qui est en train petit à petit de reprendre son chemin, qui a battu hier la Juve.
Gros match contre Sassuolo en semaine. Oui,
absolument, une victoire 6-1 avec Osimhen qui a marqué un triplé. Je me dis que Naples peut réaliser l'exploit à Montjuïc, pardon. Sur le papier, ce qui sera l'exploit pour le Barça d'être sorti en 8e à domicile. Ouais.
C'est un peu le boring Barça, comme on parlait du boring Arsenal à l'époque, là c'est un peu le boring Barça et c'est paradoxal.
Non,
c'est
mais ça
avec
attaque
Xavi,
quand même, attention, ça attaque.
Oui, ça prend beaucoup de buts. Hein.
Mais
hein,
c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Alors, sur les blessures, je pense qu'il faut quand même dire un mot de Mukhtar Diakabi parce que là on parle des blessures.
Vous avez
raison, Valence,
vous avez raison.
Mais la blessure terrible qu'a subi le malheureux Mukhtar Diakabi de Valence lors du fameux match. Luxation du genou, on parle d'une absence d'un an, donc sa carrière est pratiquement. Enfin, réduite d'un quart vu son âge, donc ça, grosse pensée pour lui hein, et pour tous les supporters du Sidi National avec lequel il avait fait la canne.
La dernière canne, effectivement, huitième de finale pour le Sidi National.
Quart,
éliminé, oui, effectivement, par la
RDC.
Par la RDC, oui, je m'y perds.
Le fameux coup franc de Masuaku.
Et la Guinée avait battu la Guinée équatoriale, le but à la 98e minute, 97e minute.
Absolument. Extraordinaire.
Quart de finaliste, effectivement, le Sili. Du côté du Barça, bon, bah, comme on l'a évoqué en début d'émission, hein, vivement le retour de Luis Enrique la saison prochaine. Enfin, je dis ça parce que c'est ce dont on parle.
Et comme ça,
on
a un Barça réel entre Luis Enrique et Mbappé, c'est ça, la saison prochaine.
On vient d'évoquer la CAN, bah, tiens, on va continuer à l'évoquer. La CAN ou les suites de l'après-CAN, beaucoup de sélectionneurs limogés hein, ou démissionnaires, on en parlait à table, 10, 12 à peu près, c'est ça, dans la foulée de la CAN.
Je dirais une dizaine.
On est dans la moyenne ou pas, Patrick, là?
Ah, on est au-dessus, là.
Ah, ouais, ça fait la moitié, en gros. Et encore énormément de postes à pourvoir.
Énormément.
Alors que ça va jouer...
Le Ghana, le Cameroun, le Cameroun, et on en passe.
En Algérie... On a trouvé.
Ils ont trouvé, oui.
Et donc, beaucoup de postes en attente, on le disait. Ce n'est plus le cas en Algérie. Fini Belmadi. Il était temps, hein, on est tous d'accord.
C'était même la CAN de trop.
On ne va pas le regretter, oui. Mais c'est tout est en trop depuis l'élimination de la Coupe du Monde 2019.
En 2021.
Tout est globalement parti dans tous les sens.
À volo.
Dans sa tête, notamment, où ils étaient plusieurs. Là, comme ça, il va pouvoir se retrouver avec lui-même. Bonjour Petkovic Vladimir, de son prénom, présenté cet après-midi à la presse à Alger. On espère qu'il va réussir à se faire comprendre. Nous, on a essayé de vous en donner le meilleur. Ça a commencé en italien, ça se termine en français. Et puis après, pour se faire bien voir, il tente le tout pour le tout. Je vous propose d'écouter ces premiers mots de Petkovic à Alger tout à l'heure.
Je suis arrivé ici pour faire un bon boulot. Et je suis sûr qu'ensemble, avec ma joueur, on pouvait donner beaucoup, on pouvait... gagner beaucoup et je suis ambitieux. Je voulais porter à mon joueur même chose pour gagner plus possible. Ramadan Karim, Inch'Allah. Hein?
Voilà un petit mot pour le Ramadan qui arrive. Ouais. Inch'Allah, comme de coutume. Oui, c'est un examen de passage, la première conférence de presse. Le premier rassemblement, c'est très vite. Hein. Il y a des matchs pour les sélections africaines, comme pour tout le monde d'ailleurs. La France aussi, fin mars. On rappelle, le 22, j'ai ça noté quelque part. Voilà, la Bolivie, Algérie-Bolivie le 22 mars, puis l'Afrique du Sud le 26, ce sera
troisième
un bon test.
Troisième
de la CAN avec un Hugo Broz qu'on aime bien et qu'on est ravi d'ailleurs d'avoir vu emmener.
Qui lui a gardé son poste.
Bafana, oui, qui a gardé son poste et c'est bien mérité parce que personne ne les voyait troisième, les Sud-Africains. Bon, Petco, on en dit quoi? Alors, ça a été évoqué dans le Café des Sports rapidement vendredi. On a d'autres consultants ici. Mais ça vous inspire de le retrouver? On rappelle qu'il est à la fois croate, bosnien et suisse.
Né à Sarajevo, donc à la base bosnien, oui, effectivement. Enfin, yougoslave à l'époque, mais d'origine bosnienne.
Il parle italien.
Moi, je ne suis pas surpris parce que vous avez parlé du calendrier de ces matchs contre la Bolivie et l'Afrique du Sud parce que c'est dans le cadre d'une nouvelle institution, c'est les FIFA Series. Ce sont des matchs amicaux internationaux organisés sous l'égide de la FIFA. C'est un petit peu, peut-être, de manière inavouée, pour couper l'herbe sous le pied des organisateurs privés, des tourneurs. Et donc, l'Algérie ne voulait absolument pas se présenter devant son public avec un sélectionneur intérimaire ou avec un poste non pourvu. Donc, la fédération souhaitait à tout prix trouver très vite le successeur de Belmadi. Parce qu'après tout, les premiers matchs à enjeu ne sont qu'au mois de juin. Ça aurait pu laisser plus de temps. Ils ont voulu faire vite et le choix des techniciens libres était restreint. Ça s'est vite joué entre José Pesero, qui visiblement savait qu'il ne resterait pas au Nigeria, qui était en fin de contrat, et Petkovic. Et Petkovic a été choisi d'abord parce que son expérience en Suisse a été jugée concluante. 3 qualifications de suite.
Elle l'était, on rappelle. Coupe du Monde 2018, Euro 2016, Euro 2020, 8e de finaliste, 8e de finaliste, quart de finaliste.
Donc,
et surtout,
qualité de jeu intéressante et une capacité à gérer des binationaux venus d'horizons divers. Ouais.
Il a 60 ans, on le rappelle.
Et puis aussi le souvenir de Vahid Halilhodžić, je pense que ça a joué également. Il va devoir apprendre le français, je pense, Monsieur Petkovic. Il parle pour l'instant bien italien, un peu anglais, mais il va devoir l'apprendre. A priori, il a l'air d'avoir quelques rudiments, donc ça peut aider.
Je suis rassuré. Je suis d'accord avec Patrick. Il fait 1m90. Il faut des épaules en Algérie pour affronter les médias, la presse.
L'éternel débat entre les nationaux, les binationaux.
Non, 1m90, ça veut dire que c'est quelqu'un qui en impose. Alors, juste une petite touche historique pour aller plus loin que Patrick. En Algérie, on a un bon souvenir des entraîneurs ex-yougoslaves. Parce qu'évidemment, on a eu Vahid avec les résultats qu'il a eu avec l'équipe d'Algérie. Il y a eu Radjevac aussi, qui a entraîné pas longtemps.
C'était une catastrophe.
Et surtout, qui a été une catastrophe, mais surtout, historiquement, on a un bon souvenir. Alors là, c'était la Yougoslavie, c'était en 80-82, c'est Rajkov, qui était serbe. Et en fait, il était en duo avec Khalef. Ils ont préparé tous les deux, parce que Mekloufi est arrivé après, la grande équipe d'Algérie de 82.
Beloumi, Madjer, Assad.
Voilà, absolument. Et Rajkov, parce que moi, j'avais eu les anciens internationaux, justement, les Salah, les Madjer et tout. Ils avaient tous gardé un très bon souvenir et ils ont même dit que l'identité de jeu qui nous a fait rêver en 82, à la Coupe du Monde 82, c'était en grande partie Rajkov. C'est-à-dire en fait que...
De toute façon, le football yougoslave était assez proche du football maghrébin,
absolument,
dans sa technique en
absolument
mouvement. Et
les Algériens n'étaient pas les Brésiliens de l'Afrique, mais les Yougoslaves. Ah,
donc c'est un changement dans la continuité quelque part. On connaît.
Pour moi, c'est un bon choix.
C'est un très bon choix malgré l'échec qu'on le rappelle à Bordeaux il y a 2 ans.
Une chose quand même, quand vous évoquez son physique. L'une des déclats de Petkovic aujourd'hui en conférence de presse, j'ai l'impression qu'après la CAN, qu'il y a plus un problème de pression que de jeu. En écoutant vos questions, il parle à la presse, j'ai compris, il faut qu'on soit tous unis, même vous avec nous. La pression avait été là. Il dit en gros qu'il n'y avait pas de problème de jeu. Vlad, certes, il y a eu des occasions, mais il y a aussi beaucoup de ratés dans le jeu. Attention de parler de pression et de mettre ça sur le côté pression de pas jeu.
Quant aux journalistes algériens, ils font partie de ces journalistes supporters, mais capables de vite virer leur
aussi.
La fausse solution.
Non, juste un mot, il y a un nouveau président de Fédé en Algérie depuis septembre dernier. Il souhaitait, dès sa nomination, choisir un sélectionneur, c'est chose faite.
En tout cas, ont un nouveau sélectionneur. Il y a
sur
bien
le papier,
une petite
bon
dizaine
choix
d'équipes
sur le papier, bon
qui
choix
n'en ont pas. On a bien compris, sur le papier, c'est un bon choix. Vous l'avez compris, vous aussi, à mon avis, les auditeurs. Merci, Chérif, pour ce mot de la fin. Vous retrouvez la dame demain, c'est promis, elle sera là, c'est mardi.